Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus.
Au sommaire aujourd'hui, priorité vaccin face à la cinquième vague de Covid qui prend plus d'ampleur, plus de 10 000 patients à l'hôpital. Nous irons en Ardèche, le département où le virus circule le plus en France. Et avec Hélène Chevalier, les derniers conseils pour trouver un créneau de vaccination. Deux bonnes nouvelles. Dans la lutte contre le changement climatique, 2021, année record pour le déploiement des énergies renouvelables. Dans la lutte contre le sida, le traitement en France va être allégé dans les semaines à venir. Déjà un quart des militants ont voté, les LR élisent depuis ce matin 8h leur candidat à la présidentielle. Quant à Éric Zemmour, premier passage tendu aux 20h de TF1, il traite son intervieweur Gilles Boulot de procureur. Dans le 13-14 également, l'amour au temps des talibans. Reportage de notre envoyé spécial en Afghanistan. Vivre une histoire, c'est apprendre la dissimulation.
On ne peut pas faire confiance aux talibans. Ils peuvent soudainement vous arrêter et vous demander de regarder votre téléphone avec les photos ou les messages envoyés. Personne ne doit être au courant. C'est pourquoi désormais j'efface tout.
En France, l'assurance récolte présentée aujourd'hui. Les agriculteurs attendaient cela depuis longtemps. Au rayon laitage, la marque Yoplait redevient française. Quel est votre état d'esprit ? À cette question, 37% des Français répondent la fatigue. Vivons-nous dans une société fatiguée ? Lassitude face aux mesures de restriction, incertitude face à l'avenir de la planète, manque de temps, fatigue démocratique. Y a-t-il un lien entre tout cela ? Invitée à 13h30, la philosophe Hélène Leuillet et l'économiste Claudia Sénic. Êtes-vous fatigué et pourquoi ? 01 45 24 7000 et France Inter, l'appli pour vos questions. Le feuilleton, une semaine dans la vie de jeunes femmes qui souffrent de trisomie, la chronique cinéma de Corinne Pellissier, du kitsch joyeux aussi dans C'est une chanson, l'actrice et réalisatrice Valérie Donzelli choisit un tube des années 80. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est le département français où le virus circule le plus, virus du Covid. Taux d'incidence 600. Deux fois la moyenne nationale en Ardèche, pourtant peu densément peuplée. Alors que la situation sanitaire est en train de s'aggraver dans le pays, que se passe-t-il en particulier dans ce département ? Bonjour William Gay-Costa.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Vous avez cherché à en savoir plus ce matin.
Oui, et ce qui ressort, c'est que la vaccination semble poser problème dans le département. On a moins vacciné qu'ailleurs, 72,2%, 3,5 points de moins qu'au niveau national. Alain Carillon est le président départemental du syndicat MG France. Il est généraliste à Bourg-Saint-Andéol.
Quand on est dans une circulation importante du virus comme ça, ça devient problématique et évidemment ça monte. On se bat contre ça tous les jours et depuis des mois maintenant.
Un combat contre des discours anti-vaccination assez ancrés dans la région.
On a des populations anti-vax qui sont connues, hein. Mais on l'a vu sur chaque épidémie, hein. Des épidémies de rougeole qu'on a vu réapparaître chez nous alors qu'on n'en voyait plus dans d'autres endroits. Bon, ça fait assez longtemps.
Et à cause de cette méfiance, eh bien, les indicateurs sanitaires sont bien plus inquiétants que dans les départements voisins.
Si vous regardez la Drôme qui est juste de l'autre côté du Rhône, il y a le taux de vaccination dans la Drôme est proche du taux de vaccination de la moyenne régionale. Et le taux d'incidence, il doit être aux alentours de 300, alors que nous, on a 600. Simplement, entre les deux, il n'y a pas un mur, hein. Il y a un fleuve, ça s'appelle le Rhône.
Pour l'instant, les contaminations augmentent dans la région, admet le directeur de l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes à nos confrères de Lyon Capitale. Mais le vrai juge de paix, ce sera le nombre d'hospitalisations et surtout de réanimations. Pour l'instant, 63% des lits de réanimation du département sont occupés par des patients atteints par le Covid-19.
Et en France, globalement, il y a plus de 10 000 personnes désormais à l'hôpital. Près de 50 000 nouveaux malades dans le pays hier, contre 30 000 il y a une semaine. Face au virus, le vaccin, 7 millions de personnes ont déjà eu leur rappel. Alors peut-être avez-vous du mal à trouver un créneau, même s'il y a des embouteillages, ils s'en libèrent tous les jours. Du côté des centres de vaccination, 300 doivent ouvrir dans les jours à venir, en plus des près de 1200 qui existent déjà. Les médecins, pharmaciens et infirmiers n'ont jamais passé autant de commandes. Hélène Chevalier, on suit avec vous au jour le jour cette logistique de la troisième dose. Quelles sont les dernières informations ?
Eh bien, un petit goulot d'étranglement, reconnaît ce matin une agence régionale de santé. Comme en juillet, les autorités sanitaires ont été un peu prises de court et doivent maintenant se organiser. Une chose primordiale, la France ne manque pas de doses. Il reste en stock près de 35 millions de Pfizer et Moderna. C'est plutôt la logistique qu'il faut organiser, surtout adapter finement à la demande et au territoire. Vous le disiez Bruno, certains centres vont donc rouvrir. Ceux qui vivotaient doivent rappeler du personnel pour augmenter leur capacité de vaccination et allonger les plages horaires. Ce sera certainement aussi le retour des barnums dans certains centres commerciaux. Mais c'est surtout sur la ville que va reposer cette campagne de rappel. Les pharmaciens, médecins, infirmiers peuvent maintenant injecter les deux vaccins à ARN messager. Ils devraient recevoir les doses en masse d'ici le début de la semaine prochaine. Pas de panique donc si vous ne trouvez pas de créneau sur Doctolib. Il faut privilégier la proximité. En Ile-de-France, par exemple, les trois quarts des officines vaccinent. Un petit tour donc à la pharmacie en allant chercher son pain ou un coup de fil, ça peut parfois aller plus vite que d'attendre désespérément de nouveaux créneaux sur Internet.
Et sur le site santé.fr, vous trouverez la liste des professionnels qui vaccinent. Il reste 6 millions de personnes en France qui n'ont reçu aucune dose. Une nouvelle fois, François Bayrou plaide pour que le débat sur la vaccination obligatoire soit ouvert. Il l'est en Allemagne. Les députés se prononceront d'ici à la fin de l'année. En Grèce, vaccin obligatoire pour les plus de 60 ans. Vaccin et fermeture des frontières. Alors que les détections de Covid version Omicron se multiplient, l'Amérique latine est touchée à son tour. Le Japon suspend les réservations sur des vols vers son territoire pour un mois. En France, le zéro vol vers l'Afrique australe, où Omicron a été repéré en premier, est prolongé. Quelle est l'efficacité de ce type de mesure dans la lutte contre la propagation du virus? On voit cela dans un instant. D'abord, pour beaucoup de Français qui souhaitent rentrer d'Afrique du Sud, le moment est évidemment compliqué, Romain Chanson.
S'il y a bien une chose qui met en colère les Français bloqués en Afrique du Sud, c'est le manque de communication. Sacha fait partie d'un groupe de 14 Français bloqués dans un lodge. Il reste très amer après son dernier coup de téléphone.
J'ai essayé d'appeler directement le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Je suis tombé sur quelqu'un d'absolument détestable, qui m'a dit qu'ils n'allaient pas s'amuser à s'occuper de tous les Français qui ont pris le risque de partir en vacances dans des zones à risque. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis tout sauf un aventurier, que j'aurais jamais pris le risque de venir en Afrique du Sud si cette zone-là était à risque.
Avant la découverte du variant Omicron, la situation sanitaire sud-africaine n'était pas inquiétante, avec très peu de cas de contamination par jour. C'est en train de changer, avec une augmentation rapide dans la région de Johannesburg et Pretoria. C'est pourquoi Morgan et sa compagne ont préféré attendre que la situation se débloque depuis la ville du Cap, à l'extrême sud du pays, mais la circulation de ce variant Omicron les inquiète.
Plus de temps on restera dans le pays, plus de risques on aura à attraper ce variant. Dans le groupe de personnes qui sont dans la même situation que nous, il y a beaucoup de stress par rapport à tout ça.
Morgan pense aussi à son travail, lui qui est infirmier en réanimation à La Réunion et dont la compagne est médecin aux urgences Covid. À Johannesburg, Romain Chanson pour France Inter.
L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à ne pas suspendre les vols. Cela a des conséquences lourdes sur les vies et les moyens de subsistance. Cela pourrait dissuader les pays de partager leurs données épidémiologiques et cela n'empêche pas la propagation du virus. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Sur ce dernier point, que disent les scientifiques?
Ils sont unanimes. Une fois l'épidémie installée, contrôler les frontières terrestres ou aériennes n'a aucun sens. Même les pays qui avaient choisi de s'isoler avec la stratégie zéro Covid, comme la Nouvelle-Zélande, sont revenus sur ce choix. Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, ne comprend pas qu'on reconduise des choix passés qui n'ont pas marché.
C'est presque étonnant en réalité que quasiment un an après l'introduction des premiers variants, notamment le variant Alpha, on ait les mêmes réponses et j'ai envie de dire que les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences.
Est-ce qu'un nouveau variant, cela change la donne? Prise très tôt, la mesure peut-elle au moins ralentir la progression des cas? Sur France Culture ce matin, c'est ainsi que Bruno Lina, professeur de virologie et membre du conseil scientifique, interprétait le choix de l'exécutif.
Il ne faut pas perdre notre objectif qui est d'essayer
alors,
de doubler...
On n'entend pas Bruno Lina, qu'on va entendre dans un instant.
Bruno Lina, membre du conseil scientifique.
Voilà, donc Bruno Lina disait que fermer les frontières n'avait de sens que si la période était extrêmement courte. Et l'objectif, disait-il, c'était pour l'exécutif de mettre en place, en attendant, de nouveaux outils pour mieux être préparé. En tout cas, les scientifiques sont d'accord. Renforcer l'immunité et donc la vaccination, la dose de rappel, c'est la seule stratégie qui vaille. Écoutez Benjamin Davido.
Il ne faut pas perdre notre objectif qui est d'essayer de doubler le virus par la droite, en réalité, et de venir à bout le plus vite de cette protection conférée par la troisième dose au sein des populations, si on veut éviter qu'il arrive à s'implémenter durablement ce fameux variant Omicron.
Effet collatéral non souhaité, vous l'avez dit, la mise au ban d'une nation qui a pourtant fait profiter le monde entier du travail de ses scientifiques. En l'occurrence, très vite, l'Afrique du Sud a partagé la séquence du variant. Punie pour sa transparence, elle pourrait conduire d'autres pays à cacher toute nouvelle émergence de variants pour éviter des sanctions.
Et à quand la vaccination des enfants? Il faudra que les autorités dans les pays respectifs donnent leur feu vert. En tout cas, le vaccin Pfizer-BioNTech version enfant sera disponible dans l'Union européenne le 13 décembre, dit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Il occupe infiniment moins l'espace médiatique que le Covid depuis 2 ans. Mais le sida fait toujours des ravages. Près de 700 000 morts dans le monde l'année dernière. Depuis le début de la pandémie, 36 millions de personnes sont mortes de maladies liées au sida. On est à un peu plus de 5 millions pour le Covid, apparu beaucoup plus récemment, et il n'y a évidemment pas d'hiérarchie à établir entre les deux. Ce 1er décembre, en tout cas, est la journée mondiale de lutte contre le sida. En France, une mauvaise et une bonne nouvelle. Le nombre de dépistages et donc de chances de prendre la maladie à un stade précoce a baissé de 14% l'année dernière. Impact de la crise sanitaire, le retard n'a pas été rattrapé. On peut vivre avec le sida, mais le traitement est fastidieux à suivre au quotidien. C'est la bonne nouvelle. Dans les toutes prochaines semaines, à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, le traitement pourra être allégé. Il se résumera à une injection intramusculaire tous les 2 mois, Véronique Julia.
Depuis bientôt 1 an, Martial, la soixantaine, fait partie de l'essai clinique mené aux hôpitaux de Paris. Le traitement associe 2 antirétroviraux. On fait donc une injection tous les 2 mois dans chaque fesse. Au début, ça se faisait à l'hôpital. Bientôt, ça se fera en ville avec une infirmière. Pour Martial, les premières injections ont été un peu douloureuses. Maintenant, il les supporte très bien.
Je n'ai plus aucune douleur et plus aucun effet indésirable. C'est rien du tout. Alors, si vous n'avez pas peur des piqûres, il y a plus de temps pour baisser son pantalon que pour faire l'injection. Non, j'exagère un peu, mais c'est 30 secondes.
Sous traitement, depuis 17 ans, Martial a connu plusieurs protocoles. D'abord plusieurs cachets par jour à heure fixe, puis un seul comprimé quotidien. Au fil des ans, le traitement s'est allégé, mais cette fois, c'est une vraie libération.
Assez curieusement, au début, mon comprimé du soir me manquait. C'est assez bizarre, mais maintenant, je n'y pense plus du tout. Ça éloigne le sentiment d'être malade et ça simplifie la vie, quoi.
Pas d'effet secondaire et une efficacité avec ces injections comparable à la prise de comprimé quotidien. Ça va concerner beaucoup de patients, explique le professeur Jean-Michel Molina, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, mais tous n'y seront pas éligibles.
Ce traitement ne s'adresse qu'aux gens qui sont bien contrôlés déjà depuis un certain temps, qui n'ont pas de mutation de résistance à ces médicaments, et puis qui n'ont pas de co-infection par le virus de l'hépatite B.
Cet allègement thérapeutique va se poursuivre. Des essais sont en cours pour des injections tous les 6 mois, et même des implants en prévention, voire en traitement.
Et on attend la fixation du prix du traitement par l'assurance maladie. Le produit sera disponible en pharmacie. Près de 200 000 personnes en France vivent avec le VIH. Voilà pour la page santé de ce journal. Sur franceinter.fr, vous trouverez toutes les informations utiles sur le Covid. La dernière interview du professeur Fontanet, membre du conseil scientifique sur France Inter. La recommandation de la Haute Autorité de Santé, vacciner les enfants 5-11 ans fragiles. Les points sur la campagne de rappel, le protocole sanitaire et le variant Omicron. Et puis à 13h30, sujet connexe. Après presque 2 ans de pandémie, la société est-elle fatiguée? La Fondation Jean Jaurès se penche sur ce sujet. On en parle avec une psychanalyste et une économiste qui participent à ces travaux. Est-ce que vous ressentez une lassitude? Racontez-nous 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir dès maintenant. Après le dernier débat entre candidats hier soir sur France Inter et France 2, les militants du parti Les Républicains votent depuis 8 heures ce matin pour choisir leur candidat à la présidentielle. Déjà un taux de participation de 25% selon le parti. Faut-il rappeler qu'il y a 5 candidats dans l'ordre alphabétique: Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse et près de 140 000 militants à jour de cotisation. Alors il est difficile de désigner un favori. Depuis fin septembre, 60 000 militants ont pris ou repris leur carte pour participer à ce vote. Yael Goz, on peut au moins se pencher sur la carte de géographie de ces militants.
Oui, une carte, Bruno, qui aura été chamboulée par toutes ces nouvelles adhésions. Paris est devenue la première des fédérations LR, avec un peu plus de 11 000 militants encartés, 3 fois plus qu'au mois d'août. Paris passait devant la Fédération des Alpes-Maritimes, là on est chez Éric Ciotti, plus de 10 000 encartés, c'est plus 70%. Deux autres départements font le plein aussi, les Hauts-de-Seine, les Yvelines, c'est encore l'Île-de-France, la région de Valérie Pécresse. Progression fulgurante en Savoie, le département de Michel Barnier, où le nombre de cartes a été multiplié par 5. Enfin, dans le Nord et dans l'Aisne, là c'est chez Xavier Bertrand, les fédérations ont doublé leurs effectifs. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne peut rien en conclure, ça ne dit pas qui va profiter de ces nouvelles adhésions, le brouillard est total. L'exemple de la primaire écolo est dans toutes les têtes, à droite, 5 candidats et 4 à la fin quasi ex aequo qui se partagent chacun un quart du gâteau. Résultat du premier tour demain 14h, DLR dans le flou, mais rassurés par leur procédure de vote, ils ont le même prestataire que pour les écologistes, risque de fraude quasi nul avec un vote électronique aussi sécurisé qu'un paiement en ligne.
Et le résultat du second tour et donc du candidat de droite à la présidentielle sera connu samedi après-midi. Lui était autrefois chez les LR, il s'en éloigne un peu plus, le maire de Nice, Christian Estrosi, rejoint le parti d'Édouard Philippe Horizon. Alors la droite n'a pas encore son candidat, mais à l'extrême droite, elle connaît ses adversaires, sous réserve qu'ils obtiennent les 500 parrainages nécessaires. Éric Zemmour s'est donc lancé hier, et comme quasiment chacune de ses apparitions, ce lancement officiel de la campagne s'accompagne de controverses. Plus de 7 millions de personnes ont suivi son interview hier sur TF1, mais le camp Zemmour accuse le présentateur du journal Gilles Boulot de s'être comporté en procureur. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Gilles Boulot a notamment confronté Zemmour aux écrits misogynes que contiennent ses livres.
Oui, d'un côté il y avait Éric Zemmour qui rêvait de finaliser sa mue de polémiste à candidat, et de l'autre, vous l'avez dit, Gilles Boulot, qui l'a questionné sur ses écrits, sur les femmes ou encore sur ses condamnations judiciaires. Bref, tout ça ne s'est pas bien terminé selon plusieurs sources. Éric Zemmour, à la sortie du studio, a insulté le journaliste avant de s'en prendre à lui depuis son QG face caméra. Alors une question se pose, cet emportement est-il calculé façon Trump ou le candidat a-t-il perdu une nouvelle fois son sang-froid ? Certainement un peu des deux. Éric Zemmour ne rate en effet aucune occasion de s'en prendre à ses anciens confrères qu'il juge, selon ses propres termes, partiaux, injustes et idéologiquement engagés. Mais hier soir, il y avait sans doute aussi beaucoup d'exaspération de ne pas avoir pu clore comme il l'imaginait la mauvaise séquence entamée au Bataclan.
Alors après ce lancement de campagne, quelle est la suite pour le candidat Zemmour, Élodie ?
Une étape cruciale, le premier meeting au Zénith à Paris dimanche, où devrait être dévoilé l'organigramme de campagne. Question clé, car après les épisodes ratés de Londres, Genève, Marseille, des proches dénoncent le manque d'expérience politique de l'équipe actuelle, comme Jean-Frédéric Poisson, président du Conseil du Parti conservateur VIA.
On peut se permettre des choses quand on n'est pas candidat qu'on ne peut plus se permettre quand on l'est. Cette organisation de campagne doit être modifiée. C'est une direction de campagne expérimentée avec tout ce qui accompagne habituellement une organisation de ce genre, c'est-à-dire une répartition des missions qui soit clarifiée, qui soit déterminée, ce qui n'existe pas ou peu aujourd'hui.
Une critique infondée selon la jeune garde de l'entourage. Nous ne sommes pas que des gamins, loin de là. Citant des hauts fonctionnaires, Jean-Paul Bolluffer, ex-directeur du cabinet de Christine Boutin, ou l'ancien préfet Gilbert Payet. L'important dimanche au Zénith, nous dit-on encore, ce n'est finalement pas le premier rang, mais d'exploser la jauge. Prouver que les Français sont là, à défaut pour l'instant d'alliés de poids.
Un début d'incendie à la mairie de Basse-Terre en Guadeloupe, en Martinique, des locaux de la Poste vandalisés à Fort-de-France et des voitures brûlées à Mao, des barrages routiers à Saint-Martin. La situation reste tendue aux Antilles. L'obligation vaccinale reportée au 31 décembre pour pompiers et soignants ne suffit pas à apaiser pour l'instant la situation. Plus de 3 mois après le retour au pouvoir des talibans, France Inter, de retour en Afghanistan. Vous avez peut-être entendu dans le journal de 7h ce matin au micro de Thibault Lefebvre les témoignages de ces femmes enfermées chez elles pour éviter notamment d'attirer le regard de talibans. L'Afghanistan en proie à la famine aussi. 1 million d'enfants sont menacés de mort cet hiver selon l'ONU. Et c'est la vie dans ce qu'elle a de plus banal et beau qui est défigurée. Thibault nous raconte à présent l'histoire de 2 jeunes gens d'une 20aine d'années. Comment s'aimer au temps des talibans? Ils ont grandi dans un pays qui les laissait relativement libres, mais depuis le 15 août, c'est très très différent.
Cham est une jeune fille de la classe moyenne de Kaboul. Elle est subtilement maquillée, elle porte nonchalamment un voile de couleur crème qui laisse apparaître quelques mèches sur son front, une robe de contrefaçon d'une célèbre enseigne de luxe italienne, et dans son faux sac de marque, il y a l'objet sans lequel rien ne serait possible, son téléphone portable connecté en permanence à la messagerie WhatsApp. Le dernier échange avec Ahmad date du matin de l'interview.
C'était au sujet de la photo d'un petit chat que l'on m'a récemment offert. Il a voulu me montrer qu'il était jaloux de l'animal. Il m'a dit que le chat était moche et qu'il fallait que j'en prenne un autre.
Des rires, un chat et de l'amour, tout ça est évidemment très mignon. Si ce n'est qu'au pays des talibans, ce type d'échange hors mariage est sévèrement puni. La famille de la jeune fille peut par exemple exiger une union forcée ou plus grave, la mort du prétendant. Alors Cham fait évidemment très attention et elle efface régulièrement ses messages.
On ne peut pas faire confiance aux talibans. Ils peuvent soudainement vous arrêter et vous demander de regarder votre téléphone avec les photos ou les messages envoyés. Personne ne doit être au courant. C'est pourquoi désormais j'efface tout.
Une précaution supplémentaire, puisqu'avant les talibans, il fallait déjà échapper au regard inquisiteur des familles. En Afghanistan, la dissimulation, c'est un art de vivre. Alors les deux amants se sont toujours aimés, sans beaucoup se voir.
Ahmad, ce n'est pas le genre de garçon qui veut absolument m'embrasser ou me faire des câlins. Il m'a assuré que tant qu'on ne se marierait pas, il n'abuserait pas de moi. Il me respecte bien plus que ça. Nous ne sommes pas ensemble juste pour passer du bon temps ou pour s'amuser.
L'arrivée des talibans au pouvoir a éloigné encore un peu plus la perspective d'un mariage, car Ahmad a combattu pour l'ancienne armée afghane. Il envisage désormais de fuir en Iran. Cham ne peut pas le suivre, mais elle promet qu'elle l'attendra un siècle s'il le faut.
Un reportage de Thibault Lefebvre en Afghanistan. On parlait tout à l'heure du débat sur la vaccination obligatoire que souhaite François Bayrou. Il y a quelques minutes, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est dite favorable à une discussion sur cette vaccination obligatoire. Le chapitre « Lutte contre le changement climatique » des journaux aligne bien souvent les nouvelles décourageantes. Eh bien, en ce 1er décembre, en voici une qui incite à l'optimisme. 2021, année record pour le déploiement des énergies renouvelables. Les barrages hydroélectriques, l'éolien, le solaire, toutes les régions du monde sont concernées, la Chine en tête. Le rythme n'est pas encore assez soutenu pour contenir le réchauffement sous la barre d'un degré et demi d'ici à la fin du siècle. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Ces deux enseignements, Sandy, figurent dans le rapport annuel de l'Agence internationale de l'énergie.
Oui, cet organisme conseille les pays dans leur politique énergétique. Il a compté toutes les nouvelles fermes solaires, autres parcs éoliens et barrages qui produisent de l'électricité dans le monde. Ces capacités nouvelles installées ont augmenté de 3% en 2021. 290 gigawatts, c'est un record. Le champion toute catégorie reste le photovoltaïque. Toutes les régions sont concernées, mais la Chine, vous le disiez, est largement en tête devant l'Europe, les États-Unis et l'Inde. D'après les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, ce rythme de déploiement des énergies renouvelables va encore augmenter pour atteindre 4800 gigawatts en 2026. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'électricité fournie aujourd'hui par le nucléaire et les énergies fossiles, charbon, fuel, gaz. Alors c'est encourageant, mais ce rythme du renouvelable ne suffira pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour cela, il faudrait le doubler.
Et il y a un autre point d'incertitude, les énergies renouvelables aussi sont frappées par la hausse du coût des métaux.
Oui, ces 20 dernières années, le prix du solaire et de l'éolien a fortement baissé, ce qui a favorisé leur développement. Aujourd'hui, les prix des composants flambent, acier, aluminium, sans compter le coût des transports qui a été multiplié par 6. Alors si les prix restent élevés, le coût de l'éolien et du solaire pourrait augmenter de 25 à 30%, un risque important pour les petits développeurs de projets. L'Agence internationale de l'énergie se veut toutefois rassurante. D'après elle, les énergies renouvelables restent encore compétitives face à leurs alternatives fossiles.
Et cela fait partie des conséquences du changement climatique. Ces images que l'on voit régulièrement dans les journaux télévisés, ces agriculteurs qui se désolent devant une récolte abîmée par un épisode climatique extrême. Une réforme de l'assurance récolte est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Application espérée en 2023 après passage au Parlement. Le système est jugé à bout de souffle face à ces catastrophes climatiques qui se multiplient. Kathleen Comte, en quoi consiste cette réforme ?
Eh bien, il s'agit d'un nouveau système d'assurance unique qui fusionne avec le régime de calamité agricole. Ce nouveau système serait donc plus rapide pour indemniser les agriculteurs en cas de perte, plus transparent avec la création d'un pool qui regrouperait tous les acteurs, État, assureurs, exploitants, et plus avantageux puisque l'État promet un fonds d'aide de 600 millions d'euros contre 300 millions aujourd'hui. Autre changement, ce système de remboursement se compose de trois niveaux. Les agriculteurs assument leurs pertes jusqu'à 20%. Entre 20 et 50% de pertes, les assureurs prennent le relais. Et au-delà de 50%, c'est l'État qui vient en aide. Les seuils précis seront déterminés par décret. Enfin, pour souscrire à cette assurance, l'aide de la PAC, la politique agricole commune, passerait de 65 à 70%.
Et tout cela n'est possible que si les assureurs s'assurent, que si les agriculteurs s'assurent.
Ah oui, voilà, exactement. C'est ça le hic. Pour bénéficier du nouveau système, il faudra être assuré. Ceux qui refuseront devront alors assumer leurs pertes jusqu'à 50%. Au-delà, l'État leur viendra en aide, mais leur versera moins d'argent que pour les personnes assurées. Autre point épineux, les prix pour souscrire à l'assurance, ils ne devraient pas baisser. Au contraire, les prévisions laissent présager une augmentation. Certains agriculteurs craignent donc que ça leur coûte trop cher, et ce, malgré l'aide de la PAC. Puis côté syndicat, cette réforme est soutenue par la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire, mais elle est jugée excluante par la Confédération paysanne. Alors est-ce que l'État arrivera à convaincre, objectif pour 2030, que 60% des viticulteurs et des agriculteurs soient assurés, contre 30% dans chaque secteur actuellement, et que 30% des arboriculteurs sautent le pas? Ils sont seulement 3% aujourd'hui.
La réforme de l'assurance chômage continue de s'appliquer. Nouvelle étape aujourd'hui, les conditions pour toucher le chômage se durcissent. Il faudra désormais avoir travaillé au moins 6 mois et non plus 4 les deux dernières années. Yoplait redevient français. La célèbre marque de yogourt, entre autres, était passée sous pavillon américain. General Mills cède la marque au groupe Sodial, Laurent Kramer.
Oui, retour à la maison donc, au bercail pour ainsi dire, pour une marque parmi les plus connues des Français, le yaourt à la petite fleur. Créé en 1965 par le regroupement de plusieurs coopératives laitières de Lyon, Grenoble et ses environs, devient une icône de la consommation dans les années 70. Alors son rachat en 2011 par un géant américain de l'agroalimentaire avait suscité l'inquiétude des pouvoirs publics et même de la ministre de l'époque, Christine Lagarde à Bercy, devenue international au fil des années. La marque Yoplait aiguisait l'appétit de tous les géants mondiaux. 10 ans plus tard, Yoplait redevient donc française, récupérée à 100% par son actionnaire minoritaire d'origine, le groupe Sodial. Assurément, un coup de génie, souligne la spécialiste des marques, Majda Chaplin.
Yoplait, c'est 20 000 produits consommés chaque minute dans le monde. La marque est clairement installée, bénéficie d'une notoriété et d'une image reconnue auprès des consommateurs. Et on voit bien que la petite fleur, cette identité visuelle, d'autres grands acteurs des produits laitiers n'ont pas ce petit symbole. Et clairement, ça a attisé énormément de convoitises à l'international. C'est un vrai coup de génie de la part de Sodial d'avoir récupéré l'intégralité de Yoplait dans son giron.
Car en réalité, les coopératives laitières de la Sodial ne débourseront pas un centime pour redevenir maître à bord. Sodial abandonne en revanche tous les droits d'exploitation de la marque à l'étranger. Racheter l'intégralité des actions de Yoplait aurait coûté près d'1 milliard d'euros.
Merci Laurent Kramer. Après le yaourt, le pop-corn.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
La sélection cinéma du mercredi. Oh, bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
Cette semaine, deux poids lourds et un plaisir régressif au menu. Pour ceux qui ont grandi dans les années 80, ils connaissent forcément cette musique.
Vous pouvez ressortir votre combi, Bruno. Préparez aussi les pièges à fantômes, car ils sont de retour, non pas à New York, comme dans le tout premier volet du cultissime Ghostbusters, sorti en 84, mais dans une petite ville de l'Oklahoma, où vit reclus de nos jours un vieux monsieur qui rappellera des souvenirs à tout le monde. Egon Spengler, autrefois chasseur de fantômes, et que l'on prend désormais sur place pour un vieil excentrique marchand de poussière. Ce sont cette fois ses petits-enfants qui seront au centre d'une aventure ultra référencée, remplie de clins d'œil à destination des fans. Le Bibendum Chamallow, le Cerbère de la Porte, des effets spéciaux très vintage et le retour de quelques vieux amis, mais chut. C'est l'un des points culminants de ce nouvel épisode. Resté dans le giron de la famille Reitman. Après le père Ivan, c'est aujourd'hui le fils Jason à qui l'on doit notamment Juno et Indy Air qui réalisent le film. Pour un résultat pas tout à fait au niveau de l'attente, mais qui devrait plaire à toute la famille. Et remplir les caisses de la marque Lego qui vient de sortir pour les fêtes une réplique de la célèbre ambulance Cadillac.
C'est donc SOS Fantôme, l'héritage au cinéma ce mercredi. À découvrir également aujourd'hui le nouveau film de Pedro Almodovar, Madres Paralelas.
Avec un rôle sur mesure pour Penélope Cruz, la muse, leur 7e film ensemble en l'espace de 25 ans. Après lui avoir attribué le rôle de sa mère dans le précédent Douleur et Gloire, Almodovar la transforme cette fois-ci en photographe à Madrid. Janice, 40 ans, belle, libre, indépendante et sur le point d'accoucher, elle va rencontrer à la maternité une autre future maman. Ce sera le point de départ d'une histoire qui mélange à la fois le mélo, le thriller, un film aussi très politique qui revient en creux sur la période du franquisme, l'identité, la transmission de la mémoire. Sans doute le meilleur rôle à ce jour de la sublime Pénélope, récompensée du prix d'interprétation féminine à la Mostra de Venise et à qui j'attribue le prix de la meilleure tortilla. Je vous invite à lui piquer la recette dans le film, elle est dingue.
Récompensée également à Venise du Lion d'Argent, Jane Campion sort aujourd'hui son nouveau film The Power of the Dog, non pas au cinéma mais sur Netflix.
L'un des chefs-d'œuvre de la rentrée. Ah. Un magnifique western crépusculaire dans le Montana des années 20, taillé pour le cinéma avec des paysages à couper le souffle. L'Institut Lumière, la Cinémathèque vont organiser des séances dans le cadre du festival Netflix. Ça vaudra le coup de voir le film sur grand écran. Cela fait 12 ans que Jane Campion n'avait plus à réaliser de film. Et Le Pouvoir du Chien, en français, fait encore preuve d'une immense maîtrise. Oui, ça le fait moins. Mais la lumière, l'esthétique, le cadre, les personnages, avec notamment Benedict Cumberbatch, absolument stratosphérique dans le rôle d'un cow-boy toxique, solitaire, qui saura nous attendrir avec son banjo et ses secrets.
Le retour de Ghostbusters, Madres Paralelas d'Almodovar et Jane Campion pour The Power of the Dog. Voilà donc les trois conseils cinéma de Corinne Pellissier cette semaine. Dans un instant, la météo.
Chaque matin sur France 3, Outre-mer le Mag propose de l'évasion, de la gourmandise et de belles rencontres. Laurence Roustanji et Brice Laurent Dubois nous emmènent en Outre-mer à la découverte du patrimoine, de la gastronomie et des ultramarins qui partagent leurs passions et leurs projets. Outre-mer le Mag, du lundi au vendredi à 10h55 sur France 3.
Nona et ses filles, la nouvelle série Arte de Valérie Danzelli. Déjà grand-mère, libre et amoureuse, Nona mène une vie épanouie. Jusqu'au jour où on lui annonce qu'elle est enceinte.
Je m'appelle Elisabeth Perrier, mais tout le monde dit Nona. Je suis féministe. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Et c'est vraiment une catastrophe.
Une série avec Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M et Valérie Donzelli. À retrouver demain soir à 20h55 sur Arte et en intégralité sur arte.tv. Arte, vous aimez déjà.
Avant la météo, les dernières informations à propos du Covid et les règles pour le voyage qui vont changer. Ceux qui seront en provenance de l'extérieur de l'Union européenne devront soumettre à un test vacciné ou non. C'est ce que dit le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
C'est souvent pluvieux cet après-midi, Jean-Pierre.
Oui, effectivement, nous allons d'abord retrouver une large bande de pluie parfois soutenue entre le Languedoc-Roussillon et l'Alsace en passant par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Franche-Comté. Et puis ces pluies vont gagner rapidement PACA puis la Côte d'Azur avant ce soir. À noter de faibles chutes de neige sur tous les massifs au-dessus de 1200 mètres d'altitude. Et attention, risque d'avalanche assez élevé sur les Pyrénées et le massif alpin. Et puis dans les autres régions, prévoyez un régime d'averse sous un ciel changeant. Vous profitez tout de même de belles éclaircies entre la pointe bretonne et la Vendée.
Et des températures en hausse.
Et des températures en hausse qui vont se rapprocher des normales de saison, Bruno, hein, comptez généralement 6 à 12 degrés et jusqu'à 16 en vous rapprochant de la Grande Bleue.
Jean-Pierre Hameau, Météo France, 13h31.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Quel est votre état d'esprit du moment? À cette question, plus d'un tiers, 37% des personnes récemment interrogées par l'Institut Ipsos répondent la fatigue. Enquête menée pour Le Monde, le Cercle de Réflexion, la Fondation Jean Jaurès et le Centre de Sciences Po Cevipof. Pour Jean Jaurès, 12 chercheurs s'arrêtent sur cette notion. Une société fatiguée. Fatiguée après près de 2 ans de pandémie et alors qu'entre variant Omicron et 5e vague, l'heure est à nouveau aux mesures de prudence, voire de restriction. Mais il n'y a pas que la pandémie. Les travaux sur l'impact psychologique du dérèglement climatique et ses conséquences se développent. Et faut-il voir dans l'abstention massive aux élections une forme de fatigue démocratique? Société fatiguée, 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages. Pour dialoguer avec vous, deux des signataires de cette longue note de l'Institut Jean Jaurès, Hélène Leuillet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et psychanalyste, maîtresse de conférences en philosophie à Paris-Sorbonne et autrice de ce livre « Éloge du retard, où le temps est-il passé ?» Et bonjour Claudia Sénic.
Bonjour.
Professeur à Paris-Sorbonne également et à l'École d'économie de Paris, vos travaux portent sur l'économie du bien-être. Hélène Leuillet, quand on parle de fatigue, de quoi parle-t-on ?
On parle de choses qui sont très diverses, hein, qui vont de ce que vous venez de dire, la lassitude de la démocratique et de la démocratie, qui vient de l'ennui, qui fait qu'on cherche toujours des stimulants très forts, des discours chocs, etc. Ouais. Le repli identitaire également est une forme, un symptôme de la fatigue que nous traversons. Il y a, sur le plan individuel, on remarque qu'il y a un grand symptôme là, qui saisit beaucoup de gens, qui est l'insomnie, des nouvelles formes d'insomnie. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être insomniaque par fatigue. Laquelle fatigue elle-même a des causes diverses, peut venir des injonctions incessantes qui ne s'arrêtent pas, et donc on se réveille la nuit, comme pour continuer son travail, ouais. qui vient d'une forme d'extinction du désir, tout ça va ensemble aussi, qui fait qu'on n'a plus de projection dans l'avenir, et que le temps qu'on n'a pas dans la journée, ben on le prend en quelque sorte la nuit, ce qui est évidemment un cercle de fatigue dont ensuite on n'arrive plus à sortir.
Et d'un état individuel à un état collectif, une société fatiguée, c'est le titre de cette note de Jean
Voilà, bah on a trop tendance en général à séparer ce qui est individuel et collectif alors que ça se répond, et puis c'est bien souvent parallèle.
Claudia Sénic, en mars dernier, après le premier confinement, une note de votre observatoire du bien-être avait pour titre « l'usure ». Usure face oui. aux restrictions. Il y a bien un lien entre cette fatigue dont on fait le diagnostic et cette période que nous vivons.
Oui, exactement. En fait, ce qu'on mesure tous les trimestres, la satisfaction ou l'insatisfaction, le pessimisme, le repli, la nostalgie du passé, le nombre de gens qui déclarent qu'ils auraient préféré vivre dans une époque révolue, le peu d'appétence pour le futur et pour l'avenir, etc. Ça va avec cette fatigue, d'où le titre l'usure. Et on sait que, bon, en France, les Français sont assez pessimistes et insatisfaits comme une espèce de tendance de fond, mais au-delà de ça, il y a quand même énormément de fluctuations. Et là, qu'on a vu au moment du premier confinement, bon, c'était assez partagé. Au moment du déconfinement, un gros boost de satisfaction et de oui. bonheur. Au moment du deuxième confinement, alors là, vraiment la plongée dans un moment très, très sombre. Et puis ensuite, de nouveau, on remonte. Et là, on est revenu, en fait, justement, on est revenu à une période à peu près normale et même, en fait, au-dessus du niveau moyen en termes de satisfaction et d'optimisme et d'appétence.
On va voir l'impact de la cinquième vague.
La fatigue, c'est ouais. l'absence d'appétence. Ouais. Voilà. Donc je pense que, en revanche, il y a une fatigue de ces moments extraordinaires. La première fois qu'on vit un épisode extraordinaire inédit, ça peut être intéressant et agréable. Par contre, la répétition de moments de tension extrême, là, ça crée de l'usure.
Frédéric Worms, qui est parmi les 12 qui travaillent là pour Jean Jaurès sur cette société fatiguée, s'intéresse à la fatigue des soignants, qui conduit pas à la révolte, mais à la démission, à la fois fatigue physique et perte de sens. Quand on n'est plus notamment que dans l'exécution de protocoles et de procédures, Hélène Loyer.
Ah oui, tout à fait, ça c'est très important. Alors évidemment, les soignants sont là en première ligne. On voit très bien que ce qui est déserté aussi, c'est le public, hein, c'est l'hôpital public. Ça c'est un symptôme assez grave parce que ça a beaucoup stimulé de soignants, le fait de pouvoir travailler pour le public. Et là, aujourd'hui, les conditions sont si terribles qu'évidemment, il y a un abandon. Et puis ça existe aussi dans d'autres domaines du travail, c'est-à-dire le sentiment d'inutilité. C'est quelque chose qui est très fatigant et qui donne le sentiment d'une usure, le sentiment de ne pas voir à quoi on contribue dans la chaîne sociale. Alors on pourrait dire, bah pour les soignants, non, là on voit bien qu'ils sont utiles, mais il y a une façon effectivement de mettre en avant les protocoles, alors que dans beaucoup de métiers, il y a des moments où il faut savoir comment juger sur le moment présent, comment agir, y mettre du sien, et c'est ça qui donne goût à ce qu'on fait, qui redonne de l'appétence à ce qu'on fait, et pour ce qu'on fait. Et puis c'est ça qui disparaît beaucoup, parce que les choses deviennent, quand elles sont trop procédurales, et je ne dis pas, évidemment, il faut encadrer les activités, mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Quand ça devient trop procédural, il y a un sentiment de routine, et avec le sentiment de routine, le sentiment qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Vous savez, c'est ça, quand ça tourne, il n'y a pas de début, pas de fin.
Bah,
donc c'est terrible.
Une illustration de cela dans une autre profession. Bonjour Marie.
Oui,
vous
bonjour.
Nous avez appelé au standard, vous êtes enseignante dans la région de Lyon.
Oui, bonjour France Inter. Voilà, je voulais témoigner effectivement d'une grosse fatigue liée à l'exercice de mon métier dans les conditions actuelles qui durent depuis le premier confinement, avec en particulier des élèves, donc je suis professeure d'anglais en sixième, entre autres, face à des élèves masqués que je n'ai jamais vus, dont je n'ai jamais vu le visage complet, et la difficulté de transmettre une langue vivante avec un bâillon, on peut dire quand même. Hein. Mmh. Et puis également des dégradations entre collègues et avec la hiérarchie au fil de ces différents protocoles. Je trouve que les relations humaines avec les visioconférences également se sont beaucoup dégradées. Et voilà, tout ça résulte en une fatigue
Merci.
Parfois même en un épuisement.
Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si l'une d'entre vous veut réagir aux mots qu'on vient d'entendre, le baillon, notamment à propos du masque.
Oui, tout à fait. Non, mais sur l'hôpital aussi. Enfin, en fait, c'est clair qu'il y a des segments de la société qui sont fatigués justement de cette sollicitation extrême, répétée, de travailler dans des conditions impossibles. Mmh. Et en plus, sous la direction effectivement de, enfin, avec un manque d'autonomie, alors qu'il s'agit justement de faire des choses qui sont au-delà de ce qui est normalement prévu et même des horaires, etc. Et donc d'ailleurs, on a dit au moment du premier confinement, enfin, au début de la pandémie, on a dit qu'à l'hôpital, ça allait un peu mieux à un moment donné parce que justement, c'était tellement l'improvisé, enfin, il fallait tellement faire face rapidement qu'on s'était affranchi de toute cette tutelle organisationnelle et que du coup, enfin, les gens qui donnent tellement d'eux-mêmes, ils étaient rendus autonomes. Donc, je pense que oui, du côté de l'enseignement, la médecine, bien sûr, certains travailleurs qui veulent plus retourner au travail, on voit quand même qu'il y a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de secteurs où on n'arrive plus à recruter, les gens ne sont pas revenus. Mais, voilà, mais ça c'est le côté sombre, mais je pense que le tableau est pas uniforme. Je pense que il est parfois voilà gris, bleu, même parfois un peu arc-en-ciel. Je pense que c'est cette période sombre, tous ces menaces, la pandémie, finalement par contraste, ça fait apparaître la vie normale comme quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça, et je pense que l'enjeu
de ce pic de bonheur au moment du premier déconfinement.
Je pense que l'enjeu c'est ça, c'est que cette période, ces menaces servent à sortir du pessimisme français.
Bon, voilà. On va essayer de se fixer ça comme objectif. Hélène Leuillet, alors juste pour rester un peu dans le gris, Jérémy Pelletier et Jean Jaurès soulignent que ceux qui se disent le plus fatigués, les femmes de moins de 35 ans, les agriculteurs, on a parlé de certaines professions, les salariés du public en effet, et ceux qui ont un emprunt immobilier en cours. Voilà les quatre catégories qu'il cite dans sa note, sa contribution.
Oui, c'est très intéressant parce que bon, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas noircir le tableau exagérément et contribuer nous aussi à la fatigue par un discours fatigant en quelque sorte. Mais il est vrai que ce qui paraît fabuleux dans nos sociétés a aussi son envers. C'est-à-dire que c'est formidable de pouvoir contracter un emprunt immobilier et de ne pas être obligé d'attendre d'avoir tout l'argent pour s'acheter un appartement, ce qui pour la plupart d'entre nous
ne serait impossible.
Jamais. Mais néanmoins, la pression que ça représente est une fatigue, bien sûr. Là, et moi, je me rends compte, dans mon travail d'analyste, à quel point l'argent est stressant. C'est-à-dire, est stressant, pas quand on gère ces quelques euros pour la vie quotidienne, mais quand on arrive, même quand on a une petite entreprise, à des sommes importantes, et c'est le cas d'un emprunt immobilier, il y a un stress. Et donc c'est épuisant parce que viennent avec ça des questions qu'on peut formuler. Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais y arriver? Et si je tombe malade? Et si ceci? Et si cela? Et ces questions lancinantes, elles épuisent. Et moi, j'ai pas effectivement été étonnée quand j'ai lu qu'effectivement sous la plume de ce collègue, qu'effectivement l'emprunt immobilier donnait, cette clause-là allait avec un plus grand nombre
avec
de fatigues.
Avec la fatigue. Ouais, tout. Alors, on balaye large avec ces travaux. Vous êtes 12 chercheurs à commencer à vous pencher dessus, vous allez creuser ces questions-là. Il y a un aspect politique qui est intéressant. Les moins fatigués, proches de LREM, donc les marcheurs ou Modem, les plus fatigués sont à gauche, comme si, Claudia Sénic, les sympathisants de gauche étaient fatigués de vivre dans un monde où leur idéal, leur grille de lecture est malmenée.
Bah oui, effectivement, on a remarqué depuis longtemps maintenant que les émotions, les sentiments étaient très corrélés avec les attitudes politiques. Et souvent, pour aller plus aux extrêmes, les extrêmes à gauche ou à droite sont souvent des gens qui expriment de la colère ou de la peur. On l'a montré dans nos travaux. Et donc, il n'est pas étonnant qu'effectivement des gens qui sont insatisfaits du modèle tel qu'il est, peut-être se fatiguent en voyant que leurs solutions ne sont pas réalisées.
Et vous relevez dans la série, il y a aussi des moments de moindre fatigue, voire d'énergie, qu'au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, son moment d'arriver au pouvoir, avec le côté le jeune président dynamique, ça a correspondu à une période plus, dans les chiffres que vous regardez, plus heureuse, entre guillemets.
Vraiment un pic de bonheur, de satisfaction dans la vie et d'optimisme. Dans toutes les catégories de la population, niveau d'éducation, revenu, etc. Mais c'est parce qu'en fait, il incarnait explicitement dans son discours cette idée que peut-être on pourrait prendre l'avenir à bras-le-corps et justement être un peu plus optimiste et avoir plus d'appétence pour le monde qui vient.
Un autre témoignage au standard. Marie-Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
On revient à la question du travail, je pense, avec vous.
Pas forcément. D'abord, je suis un petit peu intimidée de passer après les témoignages de ces professionnels.
Il faut pas l'être, allez-y.
Je les rejoins totalement. Alors, pour faire court,
parce que ça demanderait vraiment un grand débat, tout ça. Donc j'ai eu quelques éclairages d'après ce que vous avez dit pour les personnes qui sont fatiguées, où il y a un manque d'énergie et tout ça. Ce qu'il y a, je compatis tout à fait pour les personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur entreprise, qui sont très mal logées avec toutes ces périodes très difficiles.
Mais vous nous dites qu'il faut aussi aller de l'avant, c'est ça le sens de votre message.
Moi je suis retraitée, donc j'ai la vie quand même beaucoup plus facile. Mais j'entends beaucoup de personnes, un peu de tous âges, qui se plaignent alors que on a été obligé de subir des contraintes.
Oui.
On a eu des belles années, puisqu'on parlait des 30 glorieuses, enfin elles sont finies maintenant. Mais
donc il faut aussi voir le côté positif. Je suis obligé de vous interrompre, pardon Marie-Claude, parce qu'on arrive au terme. Juste Hélène Leuillet, ça vous arrive dans votre cabinet de dire, voilà, il faut aussi aller de l'avant et pas s'apitoyer sur soi-même.
Bien sûr, il y a un moment où la plainte doit cesser, mais il faut passer par la plainte. Et je crois qu'on peut saluer l'initiative de la CFDT qui essaye justement de
mettre
des mots...
Parce que c'est en partenariat avec la CFDT,
CFDT et Fondation Jean Jaurès, de mettre des mots sur des choses qui sont un petit peu difficiles à dire, qui ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer dans la plainte, bien sûr, il faut sortir de la plainte, mais je pense que notamment tout ce qui est dit sur le travail, l'épuisement du travail, le télétravail, et que le corps, par exemple, a perdu son visage, a perdu... Bien sûr que c'était nécessaire aussi pour les contraintes, on a tous notre masque, par exemple, ici, mais néanmoins, il y a quelque chose là du corps qui est plus assez en jeu pour que le désir soit alimenté.
Merci à toutes les deux. On suivra ça et vous pouvez trouver les contributions des 12 spécialistes de sciences sociales sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Merci beaucoup. 13h45.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Ne manquez pas de toupet, vous allez nous parler de votre banque.
Oui, avancer, dit-on. Eh bien, ma banque, ça devient le CCF qui était une banque disparue.
Et il y a une histoire et des choses intéressantes à en tirer. Ça n'est pas que votre petit cas. Le feuilleton avant vous et tout de suite, c'est une chanson. Et une chanson idéale pour dissiper la fatigue. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Demain sur Arte, premier épisode de la série Nona et ses filles. C'est avec Miu Miu, Virginie Ledoyen, Clotilde M et Valérie Donzelli, l'actrice et réalisatrice qui a écrit et réalisé cette série, est à votre micro aujourd'hui.
Elle est géniale dans la série, Valérie Donzelli. Drôle, merveilleusement drôle. Tous les autres acteurs, toutes les autres actrices sont formidables aussi, comme l'est également cette histoire poétique, tendre et fantasque, avec pour point de départ... la surprise d'une septuagénaire qui se découvre enceinte.
Mon envie, c'était de parler des femmes, de filles et de leur relation avec leur mère, d'une mère avec ses filles et puis de la maternité. Donc j'ai essayé de mettre tout ça dans un seul endroit qui serait l'appartement familial. Et puis elles reviennent revivre dans cet appartement parce que leur mère est enceinte.
À 70 ans.
Voilà, à 70 ans, bien sûr. Parce que les filles ont 44 ans, quand même.
Et d'où ça sort, cette idée d'une grossesse à 70 ans?
Ça sort de, je pense, un film que j'avais vu de Jacques Demy, qui est l'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune, où Marcello Mastroianni était enceint.
L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune.
L'idée des filles qui viennent revivre chez leur mère, il fallait qu'il y ait une bonne raison, je voulais quelque chose d'extraordinaire. Mais la maladie, je trouvais ça un peu triste. Je me suis dit, tiens, et si on reprenait cette idée du fantastique, mais sur une femme, en fait, qui n'est plus du tout en âge d'avoir des enfants, pour aussi parler de la grossesse comme étant à la fois un super pouvoir et puis aussi un super poison, parce que c'est pas rien d'avoir un locataire à l'intérieur de son propre corps.
Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
C'est donc une chanson italienne du groupe Ricchi e Poveri qu'a choisi Valérie Donzelli, Sarà perché ti amo.
Un tube de 1981 qui, 4 années plus tard, a servi de générique à un film de Claude Miller. Et c'est à ce film que j'ai d'abord pensé quand j'ai su que Valérie Donzelli voulait me parler de cette chanson.
Vous avez pensé à l'effronté?
Ah oui.
Voilà. Et moi, en fait, c'est pas l'effronté qui m'a fait découvrir cette chanson, c'est des vacances en Italie. C'était nos premières vacances et nos seules vacances, d'ailleurs en famille, comme ça, où on est partis tous les six. On a pris le train couchette et on est arrivé à côté de Rome, plus précisément à Civitavecchia, pour aller dans la famille de mon père. Et donc, on est partis 2 mois en Italie, sur les plages. On a visité Rome. Et ça a été 2 mois totalement enchantés. Et c'était le tube en Italie, cette chanson. Donc, on l'entendait partout. Et puis après, il y a eu le film de Claude Miller. Et là, j'ai reconnu cette chanson. Et comme toutes les petites filles de mon âge, j'avais 13 ans. Donc, je me suis totalement identifiée à Charlotte Gainsbourg, qui fantasmait sur une jeune pianiste, Clara Bowman. Et là, c'était Charlotte Gainsbourg qui était ma Clara Bowman.
Avec son radiocassette.
Oui, avec son radiocassette, mais surtout, voilà, qui rêvait d'être aussi dans un film, en fait. C'était ça, c'était mon désir de faire du cinéma, d'être actrice, tout ça se mélangeait un peu quand je voyais ce film-là.
Ah, tu verrais les affaires de Clara, hein, t'y croirais pas.
Eh ben, tu sais ce que je crois, moi, c'est que ta Clara, elle t'a rien promis du tout. Et tout ça, c'est des rêveries dans ta petite tête de folle.
Ben, attends, tu verras, attends.
Mais pourquoi tu discutes avec moi? Je sais tout ce qu'il y a dans ta tête.
Elle voit tout dans ta tête.
Il y a du soleil dans cette chanson.
Ah oui, mais elle est très gaie, elle est très joyeuse. C'est pas une chanson qu'on écoute dans des moments tristes. Hein. C'est une chanson qu'on écoute dans des moments heureux. C'est souvent dans les réunions familiales, quand on est tous ensemble. Donc dès que j'entends cette chanson, je pense à ma famille. Oui, c'est notre tube familial, on le met tout le temps chez moi. Puis on danse avec notre père et voilà quoi. Et tout le monde pleure parce que ça nous rappelle cet été 81 qui était formidable.
On pleure forcément quand on se rappelle un été formidable?
Bah quand son père a 84 ans et qu'il danse plus tout à fait comme avant, oui, c'est émouvant.
Sara perché ti amo, ricchi e poveri, c'était donc Frédéric, le choix de Valérie Donzelli.
Réalisatrice, actrice de la série Nona et ses filles qui commence demain soir sur Arte, mais les 9 épisodes sont déjà disponibles sur le site de la chaîne et c'est top.
Oui, vous avez donné envie d'aller voir ça. Merci, à demain Frédéric. Le feuilleton, 3e épisode avec nos 7 jeunes femmes qui souffrent de trisomie. Nous sortons aujourd'hui de la maisonnée dans laquelle elles vivent en colocation. Pour suivre l'une d'entre elles sur son lieu de travail, Marie-Joëlle travaille dans un restaurant McDonald's depuis 3 ans. Comment ça se passe? Est-ce que l'insertion a été facile? Hélène Chevalier l'a suivie entre les burgers et les glaces.
Bonjour, tenez, c'est une belle journée.
Merci à vous.
De rien.
Bonjour.
Ravie de te retrouver.
Bah moi aussi, je suis très contente de te retrouver, Marie-Joëlle. Ça y est, t'es au boulot?
J'ai fait des commandes de voiture. C'est-à-dire que je les prépare leur sac. La boisson, elle est prête et dans le sac. Faut que j'arrive juste la suite. C'est-à-dire les serviettes, les sauces, et me donne le choix, et moi je donne.
Et tu fais des postes un peu différents?
J'ai fait toutes les postes différents.
Il y en a un que tu préfères?
Oui, c'est cet endroit-là.
Vous voyez, c'est quand même assez complexe. C'est, les commandes qui arrivent sur un écran. Elle a un réfrigérateur derrière où, sur lequel elle va chercher des produits. Il y a des produits qui vont venir de la zone préparation là-bas, des glaces, des boissons et tout ça. Tout ça à ramener ici. Il faut qu'elle l'assemble sans se tromper. Vous voyez, depuis tout à l'heure.
Oui, elle enchaîne.
Elle enchaîne. Donc,
tout en faisant l'interview.
C'est ça. Elle est de plus en plus à l'aise. Donc, je suis Van, je suis... directeur du site.
Et vous avez recruté Marie-Joëlle en 2018, c'est ça?
En 2018, c'était la première personne qui avait un handicap. Donc, on a mis un peu plus de temps en fait, pour la préparer. Donc, on a commencé par des stages de 2 semaines. Et finalement, ça s'avère très concluant. Du coup, on a décidé de faire un vrai contrat à Marie-Joëlle depuis le 16 janvier 2018. Elle fait 15 heures par semaine chez nous, répartie sur 5 jours. Généralement, elle arrive à 11 heures pour finir à 14 heures. Pour moi, 3 heures, c'est suffisant. Au-delà, c'est la fatigue. Et là, elle perd un peu ses moyens et tout ça.
Combien tu mets de temps, Marie-Joëlle, pour venir jusqu'ici?
Une heure, encore comme ça, avec le train. Et après, je prends un bus et j'arrive vite fait.
Le chemin, tu l'as fait toujours toute seule ou tu l'as fait avec quelqu'un au début?
Au départ, c'était avec mes parents, mais là, je connais par cas, comme ma poche. Bonjour, bonne journée.
Alors on
va aller voir Malika, vous êtes en train de faire bouillir les frites.
Oui.
Vous travaillez avec Marie-Joëlle, MJ, vous l'appelez, c'est
ça ? Oui, c'est ça, MJ, ouais. Depuis, bah, je pense, 3 ans. Ça fait 3 ans qu'elle est là, hein, Marie-Joëlle.
Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut être beaucoup derrière Marie-Joëlle ?
Au début, oui, mais là, maintenant qu'elle connaît son travail, après, oui, il faut lui dire, comme tout à l'heure, je lui ai bien dit, la priorité, c'est ta commande. Mais après, elle le fait très bien. Ouais. Elle fait très bien les choses et elle est très demandeuse aussi de travail. Elle veut apprendre plein de choses. Elle aime être au contact des clients.
Est-ce que, justement, vous avez l'impression que l'attitude des clients change aussi au contact de Marie-Joëlle ?
Moi, j'ai l'impression que, pour eux, c'est une équipière comme tout le monde. Ils vont vers elle spontanément et ils vont lui demander, par exemple, « Ah, je ne sais pas utiliser les bornes, est-ce que vous pouvez m'aider ?»
Et pour vous, c'est une équipière comme tout le monde ?
Ah oui ? Ah oui, oui, oui. Si elle fait mal les choses, on va la reprendre.
Alors là, le rythme s'accélère drôlement pour Marie-Joëlle. Il y a pas mal de voitures qui attendent, mais Marie-Joëlle garde le rythme.
Oui, ça fait 3 ans que je suis là, j'ai de l'expérience.
Merci, bonne journée.
De rien.
Il y a la dame là qui vient de taper sur la fenêtre avec une clé, j'ai l'impression.
Les clients sont toujours fait comme ça.
C'est vrai ? Ils sont un peu énervés ?
Moi, je dis rien.
Qu'est-ce qu'elle apporte ici, Marie-Joëlle ?
C'est vraiment la bonne humeur. C'est toujours une personne qui a toujours la banane. Et ça, c'est très agréable pour nous déjà, mais c'est le public aussi aux clients. Et on en est très 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 content.
Je fais un peu de charme aux clients pour c'est ramener des clients. Quoi. Elle m'a demandé ça dans le contrat, donc je ramène des clients. Oui, oui, oui.
Voilà Marie-Joëlle avec Hélène Chevalier. Le feuilleton est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire, vous tenez à nous communiquer aujourd'hui une nouvelle d'importance qui tient à votre situation bancaire. En 2023, si tout va bien, vous deviendrez client du CCF, banque qui pourtant n'existe plus.
Oui, mais ça ne concerne pas que moi, mais aussi 800 000 personnes clientes de HSBC. Un grand nombre d'entre nous n'avions pas choisi HSBC, mais nous y étions retrouvés comme sur une plage, vous savez, déposée par les marais bancaires. HSBC, c'est une banque britanno-asiatique. Il y a 21 ans, elle a voulu s'éloigner de ses rivages, s'installer en France. Elle a, pour cela, mis le prix fort en achetant le Crédit Commercial de France, la plus petite de nos grandes banques. Et après le rachat est venu l'unification des noms. Nous autres clients, nous nous sommes retrouvés sous la marque HSBC. H comme Home, Sweet Home. S comme Succès. B comme Business. Et C comme Client d'abord.
Vous ironisez, en vrai HSBC, c'est Hong Kong Shanghai Banking Corporation.
Et si on croit les services de com, elle a été créée en 1865 par un Écossais pour soutenir le flux croissant d'échanges et de marchandises entre les places asiatiques, thé et soie de Chine, coton et jute des Indes, sucre des Philippines, riz d'Indochine. C'est complètement vrai. Si on ajoute que la naissance d'HSBC intervient dans le contexte des traités inégaux, après les guerres de l'opium, et ça pardonne pas combien de fois j'ai entendu « Ah oui, t'es client de la banque de l'opium !» Et en plus, et aujourd'hui encore, ta banque ne se tient pas comme il convient. Je vais pas préciser davantage pour ne pas causer d'ennui à ma conseillère qui se comporte avec la plus grande exactitude. De toute façon, HSBC a décidé de se recentrer sur sa zone d'origine. Fini les États-Unis, la France, l'Occident ne tient plus ses promesses. C'est, il est vrai, difficile pour la banque de détail aujourd'hui. Alors le réseau HSBC France a été vendu pour 1 euro symbolique à un établissement de crédit qui, comme son nom ne l'indique pas, est français, My Money Group.
My Money Group, ça fait pas très Jean Lebrun, ça.
Oui, bah dans le packaging de la vente, il y a la vieille marque CCF, et tous les Français qui sont nés comme moi dans la plus haute antiquité se souviennent, et favorablement, de cette marque. Vous savez, on a tendance à embellir la mémoire de ce qui a disparu récemment, le président Chirac, l'Alpine Renault, la R5, les marketeurs vous diront qu'une vieille patine qui brille encore, ça booste la notoriété.
Packaging boosté, et donc My Money Group qui va relever la marque CCF en 2023.
Bon, alors j'étais un peu près tranquillisé quand je me suis souvenu d'un ami toujours à découvert et qui pour une fois avait un solde très modestement créditeur, une centaine d'euros. Aussitôt, il s'était rendu à son agence pour exiger de savoir comment la sécurité physique de son argent était assurée. Alors, pour me conforter, me voilà parti dans la direction du siège historique de l'ex-CCF au 103 Champs-Élysées. patatras. Un trompe-l'œil dissimule un chantier sur la façade, 100 mètres de long, et indique que le propriétaire, c'est maintenant Dior. My Money Group va loger le futur CCF à la Défense. Enfin, toutefois, je me suis souvenu qu'autrefois, l'artisan de la vente à HSBC, Charles de Croisset, m'avait fait visiter l'endroit et m'avait révélé que l'histoire du 103 avenue des Champs-Élysées, c'était pas sans tache. Le bâtiment en forme de vaisseau avait d'abord été un hôtel meublé, de luxe certes, un hôtel meublé quand même, un nichoir pour garçonnière. Charles de Croisset m'avait montré ce qui en subsistait, le salon où avait œuvré Mata Hari, où elle avait été arrêtée pour trahison. Mata Hari, la danseuse espionne, l'anti-Joséphine Baker. On trouve jamais de source pure dans l'histoire bancaire.
Il s'en passe de belle dans votre banque. Merci Jean. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au Carré, vous êtes où vous à la banque? Non, c'est une plaisanterie. La Terre au Carré.
Allez, dans un instant, le nouveau doc de Cyril Dion, Animal.
À tout de suite.